contexte. Et je fais la lecture. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha sur les voies de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Voilà ces deux versets qui posent le cadre de notre texte. Et je vais peut-être dire un mot d'explication pour qu'on ait bien le contexte en place. C'est une histoire qui ne se passe pas il y a une année ou il y a un siècle. C'est une histoire qui se passe il y a très, 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 très longtemps. Et voilà la chronologie un petit peu dans laquelle on peut se situer. J'espère que vous voyez bien. C'est pas, ceux qui sont loin, ils ne voient pas peut-être très bien, mais grosso modo, voilà. Il y a eu le patriarche, il y a eu ce temps en Égypte. Il y a eu la délivrance de Dieu, la sortie du peuple d'Égypte. Il y a eu ce temps des juges, 300 ans. Il y a eu la royauté. On en a beaucoup parlé ces derniers temps en parcourant le livre de Samuel, cette série sur Samuel. Et puis il y a la division. La division du royaume en deux royaumes. Le royaume de Juda, le royaume d'Israël. Juda au nord, avec deux tribus, Israël au sud, avec les 10 autres tribus. Pardon, excusez-moi. Merci, il y en a qui suivent. Excellent, excellent. Josias, roi sur Juda, donc. Et Josias qui arrive, à peu près, ça se passe à peu près en l'an 640 avant Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Juda a eu en tout une vingtaine de rois. Et ce qu'il faut voir, c'est que depuis cette division, le peuple d'Israël dans son ensemble n'a connu sans cesse que de temps d'éloignement de Dieu. Et en particulier, parce que les différents rois qui ont régné aussi bien sur Israël que sur Juda, ont montré le mauvais exemple. Sans cesse, dans ce texte qui parle des royaumes d'Israël et des Juda, on retrouve cette phrase qui dit « Et ils n'ont pas marché sur les traces de David ». Josias, c'est l'exception. Josias arrive comme le 16e roi sur le royaume de Juda. Et il en est vraiment l'exception. Son grand-père, Manassé, a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Son père, Amon, a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. D'ailleurs, son père, il va être assassiné. Il y a un complot. Ses serviteurs se soulèvent, on l'assassine. Le peuple reprend les choses en main. Et voilà comme est Josias, comme roi sur Juda. Josias a à ce moment-là 8 ans. 8 ans. À la tête d'une grande nation. Une nation dévastée, certes. Ils étaient sous l'occupation des Assyriens. Mais quand même, roi sur un peuple, roi sur ce royaume de Juda. Et dans les lèvres, sur les lèvres de tous ceux qui étaient là, une seule question, que pourra-t-il bien faire ses petits-enfants pour ce peuple si grand? Et on va le découvrir ensemble. Il va faire de grandes choses. Et là, c'est peut-être le premier petit clin d'œil des dieux à notre jeunesse. Dieu, il ne regarde pas ton âge. Dieu, il ne regarde pas notre expérience pour agir dans nos vies, pour faire des grandes choses avec nous. Paul disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en fidélité, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. N'importe qui, même le plus petit, peut être utile à notre Seigneur et par ses actions lui rendre gloire. Alors je vous propose de continuer dans le texte et on va lire à partir, toujours dans le chapitre 34, à partir du verset 3 et suivant jusqu'au verset 7. Le récit continue. La huitième année de son règne, alors qu'il était encore jeune, Josias commença à rechercher le Dieu de son ancêtre, David. Et la douzième année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux sacrés, des sculptures sacrées et des idoles en métal fondu. On démolit en sa présence les autels des Baals et il a bâti les piliers consacrés au soleil qui était dessus. Il brisa les poteaux sacrés, les sculptures sacrées et les idoles en métal fondu et les réduisit en poussière. Et il dispersa la poussière sur les tombeaux de ceux qui leur avaient offert des sacrifices. Quant aux ossements des prêtres, il les brûla sur les autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, et dans les ruines tout autour, il démolit les autels, mit en pièces les poteaux sacrés et les sculptures sacrées jusqu'à les réduire en poussière. Et il a bâti tous les piliers consacrés au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Premier principe, la séparation d'avec le mal. Josias a 16 ans, donc 8 années se sont passées, alors que le texte nous dit il commence à rechercher Dieu. Il monte sur le trône à 8 ans, et à 16 ans, il commence à rechercher Dieu, l'éternel Dieu. Ce n'est pas son père qui va le conduire dans son éducation spirituelle. Ce n'est pas non plus ses conseillers. Ce n'est pas ses généraux. Le pays s'était dépravé. Le pays s'était tourné vers les idoles. Plus personne cherchait Dieu. Un texte parallèle nous révèle le secret. C'est Jedida, sa maman, qui s'est occupée de l'éducation spirituelle de Josias. Et là, c'est le deuxième petit clin d'œil de Dieu pour les femmes en particulier et celles peut-être qui élèvent seules leurs enfants. Dieu est avec nous. Dieu est avec vous. Et votre rôle de maman, votre rôle d'éducation est prépondérant. Le texte nous apprend que quelques années plus tard, à 20 ans, il entreprend la plus grande entreprise de sa vie. Il décide de commencer à purifier son royaume de tous ces idoles qui sont venues prendre toute la place de tout un chacun dans son royaume. C'est une entreprise qu'il mène personnellement. Il s'occupe de détruire, d'abattre ses statues, ses poteaux. Il parcourt son royaume, Juda. Et le texte nous précise en sa présence, en tant que roi, il a fait le déplacement des villes. Le texte nous dit même qu'il ne s'est pas contenté de le faire dans son royaume, donc Juda, mais qu'il est passé dans ce qui restait du royaume d'Israël, et il a également parcouru les villes, et il a fait le ménage. Il a pris son karcher pour prendre cette image, et il s'est occupé de nettoyer donc, le royaume de Juda et d'Israël, de ces idoles qui avaient éloigné chacun et chacune de l'éternel Dieu. Il n'avait que 20 ans. Vous imaginez, ces conseillers, ces généraux, à la vue de ce jeune homme, il n'était même pas encore considéré comme un homme, de décider de cette action, de l'entreprendre et d'aller jusqu'au bout. On imagine combien les difficultés, l'opposition que Josias a dû rencontrer. Mais il a tenu bon et il est allé jusqu'au bout. Josias avait compris. Josias avait compris que le danger, ce n'était pas les voisins, ce n'était pas les Assyriens. Le danger, ce n'était pas l'extérieur. Les Assyriens étaient déjà sur place. Josias a compris que le danger pour lui, pour son peuple, venait de l'intérieur. Ces idoles qui se trouvaient dans les maisons, ces idoles qui étaient sur les places publiques, ces idoles qui étaient jusqu'à rentrer dans le temple de Dieu, ont sacrifié des animaux à des idoles dans le temple de Dieu. Josias a compris que le problème venait de l'intérieur. Vous savez, ça nous parle, et ça me parle, parce que très souvent, moi je cherche le danger à l'extérieur. Très souvent, je me dis, voilà, si je n'avance pas dans la vie spirituelle, je sais que ce n'est pas le cas pour vous, mais souvent je me dis, je n'avance pas dans ma vie spirituelle à cause de ceci ou de cela. J'ai trop de travail, je n'ai pas assez de temps, ou je ne suis pas suffisamment encouragé par un tel, par un tel. Mais peut-être que le problème, comme pour Judas, vient de l'intérieur de moi-même. Le texte aujourd'hui nous parle d'idoles. Le mal est représenté par les idoles. Et vous savez, mal en hébreu se dit ra, comme le petit animal. Et le verbe ra'a veut dire briser, corrompre, détruire. Ça, c'est ce qui nous apprend l'hébreu. Ra'a, briser, corrompre, détruire. Et la Bible n'explique pas ce que c'est que l'origine du mal. Mais par contre, la Bible nous explique les effets, les conséquences du mal. Et on a tous compris, n'est-ce pas? L'objectif premier du mal, c'est de nous éloigner de Dieu. Ces idoles étaient là pour représenter le mal. Ces idoles étaient là et avaient éloigné le peuple de Juda de son Dieu. Alors aujourd'hui, c'est vrai, les statues ne sont plus là. Aujourd'hui, c'est vrai, on n'a plus de poteaux devant lesquels on se prosterne. Aujourd'hui, on n'offre plus de sacrifices. C'est vrai. Mais peut-être qu'il y a d'autres formes d'idoles dans notre vie. Alors, on se pose la question, comment les identifier? On se pose la question, comment arriver à déterminer, à définir ce mal qui nous éloigne de Dieu? Une proposition, une piste, peut-être ce qui détermine mes choix. David priait, « Ô Dieu, crée en moi un Dieu pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » J'ai souvent fait cette prière et je suis sûr que vous aussi. Mais ce matin, Dieu nous dit que la volonté, l'intention ne suffit pas. C'est ce que ce texte nous rappelle ce matin. J'ai besoin de faire un choix dans ma vie. J'ai besoin d'agir. C'est ce que Josias a fait. Alors, il faut commencer par identifier nos idoles. Comment les identifier? Peut-être que mon idole, c'est mon travail. Peut-être que c'est ma famille. Peut-être que c'est mes loisirs. Peut-être que c'est autre chose. Comment reconnaître quelques pistes? C'est quelque chose qui détermine mes choix. C'est quelque chose qui définit mes priorités. C'est quelque chose qui occupe une grande partie de mon temps, voire tout mon temps. Ce matin, Dieu nous pose la question, qu'est-ce qui m'éloigne? Qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu? Moïse disait dans Deutéronome 6, 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Ça, c'est l'objectif suprême, ultime de Dieu pour nos vies. Le mal nous éloigne de cet objectif. Alors ce matin, posons-nous la question, qu'est-ce qui dans ma vie m'éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui dans ma vie m'empêche d'être en communion avec Dieu? On l'a vu, Josias a dû payer un prix. Il a rencontré de l'opposition. Josias s'est fait des ennemis. Et parfois, on a un prix à payer quand on fait le choix de suivre le bien, d'abandonner le mal. Alors, réjouissons-nous. Parce que non seulement on sait que l'objectif est là, c'est la volonté de Dieu, la promesse est là, mais réjouissons-nous de savoir que même si c'est dur, même si c'est difficile, Dieu est à nos côtés. Deuxième principe, et on continue la lecture de notre texte. On va commencer cette fois-ci à partir du verset 14, que je vous invite à suivre. Ah non, pardon, le verset 8, j'étais déjà au troisième principe, le regain d'intérêt pour la maison de Dieu. La 18e année de son règne, donc Josias avait 26 ans à ce moment-là, après avoir purifié le pays et le temple, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Majéza, chef de la ville, et l'archiviste Joar, fils de Shoakas, réparer la maison de l'Éternel. Ils allèrent trouver le grand prêtre Ilkija et lui donnèrent l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu. Les Lévites, gardiens des portes, l'avaient reçu de Manassé, d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël, ainsi que de tout Juda et de Benjamin et des habitants de Jérusalem. On le confia au responsable chargé des travaux, dont la maison de l'Éternel, et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats des pierres de taille et de bois destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments des rois de Juda avaient détruits. Ces hommes agirent avec honnêteté dans leur travail. Ils étaient sous la surveillance de Jaka et d'Abdias, lévites issus des descendants de Merari, de Zacharie et Meshulam, qui descendaient de Kehatites, et de tous les lévites qui étaient habiles musiciens. Ils étaient responsables des porteurs et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Et il y avait aussi des lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Josias avait entrepris la purification de son pays. Il avait entrepris la purification même du temple à Jérusalem. Mais il comprend qu'il reste une chose à faire. Rebâtir le temple de Dieu. Des années et des années pendant lesquelles le temple avait été délaissé. Il tombe en ruine. C'est un temple magnifique. Salomon avait mis 7 années pour construire cet ouvrage magnifique. Et voilà que ce temple, le temple de Dieu, tombe en ruine. Josias avait compris l'importance de ce symbole, le temple de Jérusalem, pour le peuple. Il représentait la demeure de Dieu. Il représentait sa présence, le lieu où Dieu habitait, symboliquement, n'est-ce pas? Mais c'était tout cela que cela représentait. La purification va démarrer de manière active. Chacun va s'y appliquer. Je suis surpris, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, le nombre de personnes engagées. Il y avait les ouvriers, il y avait les charpentiers, il y avait certainement des ébénistes, il y avait des maçons, des gens qui étaient habiles de leurs mains. Je suis surpris de voir aussi que des sacrificateurs, des lévites, se sont mis à l'ouvrage. Ils se sont mis à diriger des ouvriers. Ils se sont mis à faire des travaux administratifs. Tous se sont impliqués dans un seul et même objectif, reconstruire la maison de Dieu. Le zèle de ma maison, de ta maison, me dévore. Vous vous rappelez ce verset ? Le Seigneur Jésus avait repris ce verset des psaumes, du psaume 69:9 à l'occasion, vous savez, où il va prendre ses fouets, il va purifier le temple de Jérusalem. Il va citer ce verset, « Le zèle de ta maison me dévore. » Des fois, on se pose la question, est-ce que Jésus n'aurait pas fait un peu trop à ce moment-là ? On peut se poser la question. Est-ce qu'il n'a pas un petit peu exagéré les choses ? Quelqu'un a dit, la manière dont je considère mon Église reflète la manière dont je considère ma relation avec Dieu. C'est fort, hein ? La manière dont je considère mon Église locale, cela reflète la manière dont je considère ma relation avec Dieu. Il est évident que pour Jésus, le temple des dieux, ce qui représentait la présence de Dieu, la demeure de Dieu, c'était quelque chose d'important. C'était quelque chose d'essentiel. Il ne pouvait pas supporter la vue de quelque chose qui viendrait tacher ce lieu, cet endroit. Aimer la maison de Dieu, c'est aimer sa présence. Le lieu où il réside. Désolé, je n'ai pas trouvé une autre image. Mais les enfants aiment bien venir à l'église, donc du coup, j'ai mis un petit dessin. David disait, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour l'admirer dans son temple. » Psaume 27, 4. David dit encore, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. » Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. S'occuper de la maison de Dieu, c'est l'enseignement pour nous ce matin, de ce qui est en train de se passer à Jérusalem au travers de cette action que mène Josias. S'occuper de la maison de Dieu, c'est montrer notre attachement à ce Dieu dont la présence est symbolisée par ce lieu. S'occuper de la maison de Dieu, c'est servir dans l'église locale, l'endroit où on est là ce matin, réunis pour prier, pour chanter, pour recevoir un enseignement. Vous savez, David, il refusait de voir Dieu habiter sous une tente. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce texte. Dans 2 Samuel 7, voici ce que dit la parole de Dieu. David dit à Nathan, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, donc des bois précieux, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Il était révolté. Et c'est à ce moment-là que la décision est prise de construire un temple en l'honneur de l'Éternel. C'est pas lui qui va le faire, c'est son fils Salomon, mais tout vient de là. Hein. Ce constat, cette révolte de David qui tenait à la présence de Dieu, qui tenait à ce qui représentait sa demeure. Alors, quelle importance a pour moi la maison de Dieu? Paul, bon, certains disent que c'est Paul, d'autres ne pensent pas, mais en tous les cas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux exhortait les chrétiens dans ce sens, n'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas. Mais soyons exhortés. Ce matin, Dieu est là. Ce matin, on est tous réunis ensemble. Et Dieu nous exhorte. Dieu, il veut nous exhorter. Vous savez, alors qu'on était avec Rina et Daniel, on a rencontré quelques musulmans qui sont convertis au christianisme. C'était excellent. Et on était malheureux pour eux parce qu'ils n'ont pas la chance qu'on a ce matin. Ils ne peuvent pas se réunir. Ils se réunissent tout juste à 2-3, en cachette. Ils ne peuvent pas s'organiser, fixer un moment précis. Ils font ça de manière spontanée. Et ils s'encouragent comme ça. Quelle est l'importance que je donne à ces lieux? Quelle est l'importance que je donne à ces moments qu'on vit ensemble? On n'a pas le temps de expliquer la raison d'être de l'Église, hein, du temple de Dieu. Il faudrait expliquer Romains 12, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 2. On n'a pas le temps. Je retiens encore ce verset de Actes 2, 46 qui dit « Ils étaient, en parlant de premiers chrétiens, chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. » Chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Des fois, j'ai du mal à m'organiser pour venir déjà, un, le dimanche matin au culte, et puis deux, peut-être à quelques réunions en semaine. Là, je vois que les chrétiens de l'Église primitive, tous, tous les jours, au temple. Et la fin du verset 47 est magnifique. « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Des fois, on se pose la question, pourquoi aujourd'hui, au XXIe siècle, il ne se passe plus grand-chose? Il y a peut-être là quelque chose à réfléchir. Du temps des Josias, tous s'y sont mis. Des charpentiers, des maçons, des sacrificateurs, des lévites. Ils sont tous mis à l'ouvrage. Et nous avons tous des capacités et des dons que Dieu veut utiliser pour que nous puissions servir, pour que nous puissions nous occuper de la maison de Dieu. Alors il nous appelle ce matin à regagner de l'intérêt pour la maison de Dieu. Hier, j'étais de ménage, mais je n'avais pas fini ma préparation. Alors Mathieu est venu me remplacer avec Sophie. Ils sont venus faire le ménage. Je crois que c'était ta grande première. Donc, merci, Mathieu. J'aimerais juste rappeler le deuxième point. S'occuper de la maison de Dieu, c'est construire ma relation avec Dieu. Ça peut paraître éloigné, mais quand je fais le ménage, donc Mathieu, hier, tu as construit ta relation avec Dieu. Quand j'enseigne à l'école du dimanche, quand je m'occupe de la sono, quand je suis à la place du Mollard pour évangéliser, quand je fais autre chose pour le royaume, pour l'Église de Dieu, je suis en train de construire ma relation avec Dieu. On continue. On va lire cette fois-ci la fin de notre texte. On a vu le premier principe, la séparation d'avec du mal. Deuxième principe, le regain de l'intérêt pour la maison de Dieu. Troisième principe, cette fois-ci, le retour à la parole de Dieu. Je lis à partir du verset 14. Au moment où l'on sortait l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le prêtre Hilkija trouva le livre de la loi. Le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse. Alors Hilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Hilkija donna le livre à Shaphan et Shaphan apporta le livre au roi lorsqu'il lui fit son rapport. Il dit, « Tes serviteurs ont fait tout ce que tu leur as ordonné et ils ont ramassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont confié aux inspecteurs et aux ouvriers. » Puis Shaphan, le secrétaire, annonça au roi, « Le prêtre Hilkija m'a donné un livre et Shaphan lut devant le roi. » À l'écoute des paroles de la loi, le roi déchira ses habits. Ensuite, il donna cet ordre à Hilkija, à Shikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à son propre serviteur, à Saja. « Allez, consultez l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda au sujet des paroles de ces livres qu'on a trouvés. » En effet, il doit être grande la colère de l'Éternel prêtre à se déverser sur nous parce que nos ancêtres n'ont pas respecté la parole de l'Éternel et ne sont pas conformés à tout ce qui est prescrit dans ce livre. Hilkija et les hommes désignés par le roi allèrent trouver la prophétesse Hulda. Elle était la femme de Shallum, le gardien des habits, le fils de Toéka et petit-fils de Asra. Et elle habitait à Jérusalem, dans la ville neuve. Une fois qu'ils lui eurent parlé comme convenu, elle leur répondit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, annoncez à l'homme qui vous a envoyé vers moi, voici ce que dit l'Éternel, je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants, conformément à toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tout ce que leurs mains faisaient, ma colère se déverse sur cet endroit et ne s'éteindra pas. Mais vous annoncerez au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Ton cœur a été touché, tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre cet endroit et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi, tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi, j'ai entendu cela, dit l'Éternel. Je te ferai rejoindre tes ancêtres, tu rejoindras la tombe dans la paix et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit et sur ses habitants. » Ils rapportèrent cette réponse au roi. Le roi fit rassembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les prêtres, les lévites et tout le peuple, du plus grand au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, et en appliquant les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Il fit s'engager dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et à Benjamin, et les habitants de Jérusalem se conformèrent à l'Alliance de Dieu, du Dieu de leurs ancêtres. Je suis ici la lecture. Troisième principe, le retour à la parole de Dieu. Le zèle pour la maison de Dieu conduit immédiatement, directement, à ce résultat qui est décrit ici. Le peuple d'Israël retrouve le livre de la loi. Il s'agissait du Pentateuque. Hein, vous vous rappelez? Salomon a construit le temple et ils ont décidé de mettre l'arche de l'Alliance, de mettre le livre de la loi, le Pentateuque, dans le livre très saint. C'était le meilleur endroit, le plus sûr. On ne pouvait pas trouver mieux pour conserver cet héritage, la parole de Dieu. Combien de fois, et moi je ne compte plus le nombre de Bibles que j'ai à la maison, qui sont dans des étagères, qui sont quelque part dans un tiroir, qui sont en lieu sûr. On a fini par oublier que la parole de Dieu était là. Les Israélites ont oublié. Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Voilà l'intention de Dieu pour nos vies. Il ne veut pas nos Bibles pour qu'elles soient posées sur un bureau, sur une étagère, dans un tiroir. L'intention de Dieu, c'est que sa parole soit près de nous, dans notre cœur. On imagine la stupéfaction de Ilkija, le souverain sacrificateur. Il tombe sur ses vieux parchemins, tout poussiéreux, jaunis par le temps. Waouh ! On imagine Shaphan, le scribe, qui commence à lire ses paroles, qui commence à être repris par l'Esprit des dieux. Avec empressement, il va voir le roi, qui dit, voilà ce qu'on a trouvé. Que doit-on faire ? Josias, il n'interroge pas Shaphan, le scribe, celui qui était censé connaître la loi. Il ne consulte pas Ilkija, le souverain sacrificateur, le médiateur entre le peuple et Dieu. Josias demande d'aller voir le prophète de Dieu, celui qui est en charge de révéler la parole de Dieu. Hulda, en l'occurrence, ici une prophétesse. Josias est repris dans son cœur. Josias est humilié. Une fois et une deuxième fois, en entendant que Hulda confirme ces paroles qu'il venait de lire. Mais Dieu fait grâce. Dieu, il confirme cette malédiction qui est là. Et on connaît, hein, je ne sais pas si vous avez gardé en mémoire la première slide que j'ai montrée, il y a l'exil qui vient après un temps. La punition de Dieu. Mais Dieu va faire grâce, puisque Josias, il ne va pas connaître de son vivant cette punition de la part de l'Éternel sur son peuple infidèle. Josias comprend la gravité de ses paroles. Et le texte nous dit qu'il fait rassembler tout Israël, du plus petit au plus grand, quelle que soit sa position, qu'il ait une responsabilité ou pas, politique, spirituelle, ils sont là tous devant le roi. Et le texte dit, verset 30, « Avec lui, tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem et les sacrificateurs et les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et il lit devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance » qui avait été trouvé dans la maison de l'Éternel. Et la suite nous apprend qu'ils font alliance. Quel effet a pour moi aujourd'hui la parole de Dieu ? J'aime bien ce verset. Ma parole n'est-elle pas comme un feu dévorant, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. C'est ce qui s'est passé. Vous savez, j'aime bien l'image de feu, parce que le feu purifie. C'est une image qui va être reprise par l'apôtre Paul à plusieurs reprises. Le feu purifie. Combien j'ai besoin dans ma vie d'être purifié dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Et encore cette deuxième image du marteau qui brise le roc. Et là, je reconnais, mon cœur est dur. Et plus dur que beaucoup de vous parmi vous dans cette salle. Mon cœur est dur. Et des fois, Dieu a besoin de faire tomber son marteau sur moi. J'ai besoin d'être brisé. J'ai besoin de tomber comme Josias par terre. M'humilier, reconnaître mon péché. Est-ce que c'est l'effet que la parole de Dieu fait dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que c'est l'effet que la parole de Dieu fait dans ma vie aujourd'hui? Je me pose la question, moi. Vous voyez, Josias avait ordonné au peuple, bon, maintenant, ça suffit. Il était roi, il avait la possibilité de le faire. Maintenant, vous arrêtez vos bêtises, tout le monde se met à adorer Dieu. Ça aurait pu se passer comme ça. Et le peuple aurait ébahi. Mais il fallait que l'Esprit de Dieu saisisse personnellement et profondément chacun, chacune, pour que cette alliance qu'ils allaient faire ensemble puisse tenir bon dans le temps. Et aujourd'hui, on est là, en église. On a des gens que Dieu a qualifiés, on a notre pasteur, nos anciens, qui nous enseignent, qui nous exhortent, qui nous disent « voilà comment il faut marcher ». Et c'est bien. Mais ce qui a l'ultime décision, l'ultime pouvoir sur nos vies, ce qui va vraiment changer en profondeur notre manière de marcher, ce n'est pas le pasteur de l'Église, ce n'est pas les anciens. Ce n'est pas nos conducteurs spirituels, c'est la parole de Dieu. Qui conduit ta vie? J'ai entendu hier une courte exhortation de 10 minutes à un frère africain et j'ai trouvé tellement excellent que je vous la partage. Il dit, ben voilà, la vie chrétienne, c'est comme une voiture. Voilà, ta vie, c'est la voiture et puis maintenant, il faut emmener cette voiture quelque part. Il expliquait Josué 1:8, vous savez, ce verset qui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. » Et ce frère africain disait, ben voilà, avant, quand il n'y avait pas GPS, et ça c'est du vécu, on partait en vacances, on allait quelque part et on ne connaissait pas l'endroit forcément, et il nous arrivait, bon pour les vieux, hein, les jeunes, vous connaissez, vous n'avez pas connu ça, mais il m'est arrivé parfois de rater la sortie de l'autoroute. Et là, c'était la catastrophe. Il fallait attendre 15, 20 kilomètres, la prochaine sortie, et puis je ne vous raconte pas. C'était les 15 ou 20 kilomètres les plus longs des vacances. Et le frère disait, bon, ça, c'était avant. Aujourd'hui, il y a GPS. Le frère disait, les chrétiens donc, oublient parfois d'allumer le GPS. Il fait allusion à la parole de Dieu. Combien de fois on l'éteint? Combien de fois on l'oublie? Et ça a pour conséquence de rater les directions que Dieu nous demande de prendre et que par mégarde, on ne les prend pas. Le frère disait, la voiture de ta vie, c'est pas, je me répète, c'est pas le pasteur qui le conduit, c'est pas tes conducteurs spirituels qui le conduisent, c'est pas tes parents qui le conduisent, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est toi. Tu es au volant de la voiture et c'est à toi de l'emmener au bon port, à la bonne destination. De ta bouche. C'est notre GPS. Josué était devant un grand défi. de grandes choses l'attendaient, pour lui, pour son peuple. Il avait besoin de comprendre que la parole de Dieu est une chose, et c'est important de la lire, de l'entendre, en l'occurrence ce matin, mais ça ne suffit pas. Il faut encore la méditer. Il faut l'assimiler. C'est pour ça qu'il dit « médite-le jour et nuit, constamment, constamment ». On a besoin d'être transformé. Mais ça ne suffit pas de méditer. Le texte continue, il dit « pour agir ». Lire, méditer, agir, obéir. J'ai besoin d'être transformé par Dieu. J'ai besoin qu'il puisse me montrer la direction pour ma vie. Et Josué, en particulier, il en avait besoin. La fin du texte dit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Qui ne cherche pas le succès? Qui ne cherche pas la réussite? Tous, n'est-ce pas? Josué a rencontré des obstacles. Premier obstacle, le Jourdain. Deuxième obstacle, les habitants de la terre promise. Troisième obstacle, les villes fortifiées. Plein d'obstacles. Mais la promesse de Dieu est là. Mais tu auras du succès et tu réussiras. Voilà ce que Dieu nous laisse ce matin comme encouragement. Revenez à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Lisons-la. Méditons-la et obéissons, et Dieu va nous bénir. Je conclue avec le dernier verset, 33 de ce chapitre 34. Josias fit disparaître toutes les pratiques abominables de tous les territoires appartenant aux Israélites, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu, et pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent pas de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. C'est formidable. Marcher en la présence de Dieu. Être sur le crête de la vague et pas se trouver dans le fond. N'est-ce pas ce à quoi on aspire tous? Trois principes. Et je termine par cette slide. La séparation d'avec le mal. Dieu nous encourage ce matin à avoir en horreur les idoles. Soyons encouragés pour les chercher, les identifier et ensuite s'en séparer. Le regard de l'intérêt pour la maison de Dieu. Combien j'ai besoin de devenir zélé pour mon église locale, devenir zélé pour l'église avec un grand E. Et le retour à la parole de Dieu. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui dans ce temps, cette constance que tu réserves à la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas où tu en es par rapport à ta manière de la mettre en pratique. Mais en tout cas, Dieu nous encourage ce matin. Nous sommes exhortés ce matin. J'ai simplement prié, mais que comme dit Jacques 1,23, ne nous soyons pas comme ces personnes oublieuses qui se regardent dans un miroir et puis qui partent, et un temps après, ils ont oublié ce à quoi ils ressemblaient. Jacques 1,23. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ce temps où nous avons été à l'écoute de ta parole. Merci pour cet exemple du roi Josias. Merci pour ce que nous avons appris ou peut-être des choses qui nous ont été rappelées concernant ces actions et ces actions qui ont mené à un grand réveil dans ton peuple. Seigneur, nous sommes désireux, nous aspirons aussi à être réveillés par toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, non pas être loin de toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, vivre au milieu des choses qui nous éloignent de toi, mais notre désir, c'est d'être près de toi, comme le disait David, Seigneur, que combien c'est précieux d'être, Seigneur, en ta présence. Seigneur, merci pour ce matin, pour ta parole, que nous soyons encouragés, que nous puissions réfléchir à ce que nous avons entendu et que nous puissions nous laisser transformer par ton esprit en vue de mettre ces enseignements en pratique dans le nom de Jésus. Amen.